J'aimerais juste réagir comme ça sur la berge, ce que vous avez dit. D'abord, merci pour la berge. Vous avez dit que Dieu m'a donné, c'est la plus belle chose que Dieu m'a donné. Du coup, pour vous, c'est quelque chose que Dieu vous a donné pour avancer dans votre foi. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ceci?
Est-ce que Dieu a voulu que je sois homosexuel? Ça, je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est une des premières choses que je vais lui demander quand j'arriverai là-haut. Si j'y arrive, si je ne vais pas en enfer. Certains disent que je dirai, donc on verra. Mais si je vais là-haut, je lui dirai, en effet, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que c'est quelque chose qui est, je sais pas, génétique? Est-ce que c'est parce que ma mère était stressée? Est-ce que c'est la faute de la mère? Parce que c'est toujours la faute des femmes. J'y ai longtemps pensé à ça. J'ai longtemps pensé. Et en fait, cette question, je la poserai plus tard, parce que ça m'intéresse, parce qu'on aura l'éternité, donc ça va être long, et il va falloir trouver des questions. Mais actuellement, je m'en fiche de pourquoi est-ce que je suis homosexuel. Je sais juste que mon homosexualité, et quand je dis que je suis heureux d'être homo et que c'est le plus beau cadeau, surtout, il faut vraiment reprendre ce que j'ai dit au début, je parle de moi. Hein. C'est ma façon à moi de vivre ça. Et je ne dis pas que toutes les personnes qui sont homosexuelles doivent forcément sauter de joie et dire que c'est magnifique et c'est un cadeau de Dieu. C'est mon expérience à moi, c'est ce que je vis profondément. Moi, ça m'a fait comprendre intimement, alors je ne pourrais pas forcément expliquer ou développer, en tout cas pas comme ça, mais ça m'a fait comprendre le mystère de la foi, le mystère de la croix, pardon. Enfin, comprendre, entendons-nous bien, pas dans son intégralité. Hein, ça m'a fait toucher quelque chose du mystère de la croix, qui est, on m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, surtout quand j'ai fait mon coming out, qu'il faut porter sa croix. Voilà, il faut porter sa croix. Et toutes les souffrances, faut les offrir au Christ et puis porter la croix avec lui et tout ça. Oui, ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais parce que jusqu'à ce que je fasse mon coming out, jusqu'à ce que Dieu me guérisse de ma peur, je pensais que la croix était un arbre mort. Alors que non. Non. La croix est un arbre vivant. C'est l'arbre de la résurrection. Et qu'il est incroyablement fécond. Alors oui, il y a la souffrance dans la croix. Oui, il y a la mort. Mais derrière, il y a la résurrection. Et que la souffrance que j'ai eue, non pas à être homosexuel, mais du regard des autres, qui m'a fait profondément souffrir et qui continue encore de me faire souffrir parce que dans ma famille, c'est pas simple tous les jours, n'empêche que derrière, il y a la promesse de résurrection et il y a cet arbre profondément vert, profondément jeune, qui dépasse tout. Voilà. Et ça m'a fait aimer qui je suis, moi qui étais une personne très clivée, très intolérante, et je m'excuse encore pour tous les propos durs et homophobes que j'ai pu avoir il y a encore quelques années. Mais voilà, avec la grâce de Dieu, ça c'est long, mais c'est génial.
J'ai eu une expérience homo étant ado, et ça m'a beaucoup traumatisé. Et un jour, je rencontre un homosexuel, j'ai dû dormir dans son lit. Ça a été une expérience fantastique, parce qu'il m'a respecté. Je lui ai dit, voilà, je suis hétéro. Pendant toute une nuit, j'ai eu la trouille, que vous me violez, tout ça, qu'il me viole, qu'il profite de moi. Puis il a été d'un respect fantastique. Et du coup, il m'a même confié les clés de son appart. Donc, voilà, il avait vraiment de la vraie confiance. Et puis, j'ai aussi une amie homosexuelle qui est très, très timide, qui n'ose pas... bon, ses parents le savent très bien qu'elle est homosexuelle, mais elle est d'une timidité rare. Et puis, ben, moi, je suis devenue son confident. Je l'écoute, je la respecte, et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un véritable... je voulais témoigner à propos de ça.
Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si ça s'appelle une réponse, mais... Ouais, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Benoît.
que nous a dit Timothée, c'est assez réconfortant. Et j'ai du mal à croire qu'il y a encore autant de résistance dans l'Église, et je crois qu'on est bien parti quand même pour que ça bouge. Mmh. Et je pense que ça va bouger de toute façon. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est ceux qui n'ayant pas la foi et qui peuvent pas reposer sur le Seigneur, qui sont dans cette rupture, qui sont confrontés à cette rupture de l'ordre établi, de l'ordre de la Bible, etc., même s'ils ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qu'ils ont comme repère, eux, qui n'ont pas le Christ que tu as découvert et qui est venu vers toi? Ils ont la culture, l'art, la musique, toutes ces choses auxquelles... La culture, c'est un grand puits pour les homosexuels. Ils ont toutes ces choses qui n'ont pas la consistance de ce que tu as. Est-ce que dans l'association, vous vous inquiétez de cette dérive de gens qui n'ont pas ce roc sur lequel vous vous appuyez?
Alors, le monde est vaste, les thématiques sont très nombreuses. L'association Devenir un en Christ, elle est fondée sur le Christ et elle est fondée sur les personnes qui sont croyantes. On aimerait pouvoir accueillir, on aimerait faire de, moi, ce que j'appelle, avec mon humour un peu foireux, l'évangélisation. J'aimerais beaucoup, vraiment, aller au-devant de personnes qui homosexuelles qui ne connaissent pas le Christ pour leur présenter. Ou alors accueillir des lieux fraternels. L'association Devenir un en Christ, ce n'est pas son objectif. L'objectif, et Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la croissance humaine et spirituelle des personnes homosexuelles. Mais il y a d'autres associations LGBT qui font ça très bien. Et je pense notamment à DJ Arc-en-Ciel, anciennement David et Jonathan, qui font ça vraiment, vraiment admirablement avec un accueil beaucoup plus large. Voilà. Mais on ne peut pas tous tout faire, malheureusement. Et du coup, nous, on est vraiment axés non seulement chrétiens, mais en plus avec une connotation catholique très forte. Même si on accepte tout le monde, hein. Tout le monde peut venir, même ceux qui ne sont pas croyants. Mais ceux qui ne sont pas croyants, on est allé voir le pape il y a 2 ans de ça, qui nous avait dit continuez. Mais voilà, on accepte tous ceux qui tapent à notre porte, mais quand même notre cœur de métier, c'est quand même le Christ. Voilà. Mais et alors, on voit hein, cette. Je déteste cette expression. Je suis désolé. Et je suis content que les filles de la Poudrière soient parties. Ce que l'Église appelle la culture gay, avec une connotation très très péjorative de ce mot. Et moi, j'ai horreur de ça parce que la culture gay, c'est. On voit ce que ça veut, ce qu'il y a derrière. On voit ce qu'il y a derrière. Sauf que pour beaucoup de personnes, notamment des croyants homosexuels, ils n'ont pas d'autre lieu où aller que d'aller dans cette culture-là, parce que c'est la seule qui les accepte tels qu'ils sont. Donc forcément, on se met dedans. J'ai beaucoup d'amis homo qui étaient croyants, enfin, qui le sont toujours, mais qui se réfugient là-dedans, parce que c'est leur seule transcendance, c'est de croire à cette communauté, et qui fait des belles choses aussi. Tout n'est pas à jeter dans cette, entre guillemets, culture gay. Il y a des... Voilà, c'est aussi une famille pour des gens qui ont été profondément rejetés, profondément blessés. Et ça, il faut que ce soit pris en compte aussi. Et que si l'Église, et je ne vise pas que l'Église, parce qu'il y a aussi le milieu familial, il y a le travail, il y a tout ce qu'on veut, mais en tout cas, les institutions n'arrivent pas à accepter les personnes homosexuelles telles qu'elles le sont, bah, forcément, elles vont se retrouver entre elles. Et quand elles vont se retrouver entre elles, c'est le risque, ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est le risque, c'est de l'entre-soi. Voilà. Mais on a le même problème dans l'Église. Hein. L'entre-soi dans l'Église, ça existe aussi.
Je vais vous dire merci pour votre témoignage. Et je trouve très percutant. Être un dans le Christ, je pense que c'est aussi important. Je suis hétérosexuel pour les hétérosexuels. Et je pense que si on était hétérosexuel, comme homosexuel, si vous êtes plus un dans le Christ, je pense qu'on serait moins dans le jugement. Et simplement, dans votre témoignage, vous avez beaucoup parlé de la prière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la prière et peut-être la lecture de la parole, je suppose.
Le livret.
D'année ?
Le livret de notre livret.
Je ne suis pas un chrétien parfait, loin de là, on n'y en a pas, à part le Christ. Mais moi j'ai eu la chance, l'immense chance d'être dans une famille catho-pratiquante qui a ses défauts. Mes cousins dans la salle, donc il faut qu'ils bouchent leurs oreilles. Mais qui m'ont donné ce goût, ce goût de la liturgie, ce goût d'aller à la messe, ce goût de la prière, de lire les évangiles. Ce qui est important, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'avoue plus les évangiles qui me touchent personnellement, mais ça c'est vraiment très personnel, hein, c'est pas du tout quelque chose de général, qui me touche. Et cette façon qu'a Jésus de toujours voir le fond de la personne, de jamais s'arrêter à l'apparence de la personne, mais toujours voir le fond. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et dans ma vie de foi, donc, j'ai rencontré Devenir un en Christ, qui tous les ans, donc en fait on travaille sur un thème d'année, qui n'est pas forcément lié à l'homosexualité, où l'homosexualité peut se rattacher au thème d'année. Par exemple, cette année, c'est sur l'amour, c'est Dieu t'aime, aime comme Dieu. Et on a un livret d'année qui est d'abord sur la parole de Dieu. On commence par l'évangile, parce que c'est quand même le cœur, la source. Et puis après, on va réfléchir autour de ça. Et ça, c'est important de pouvoir réfléchir, parler avec d'autres personnes qui sont concernées par la même réalité, et de pouvoir ancrer nos vies et voir comment nos vies sont ancrées dans le Christ. Et quelque chose qui est très important, j'en ai pas parlé, mais sinon je ne pouvais pas parler de tout, c'est de dire que devenir un en Christ n'a pas vocation du tout à être une église à part ou une mini-église. Voilà, c'est des rencontres mensuelles, puis il y a deux, trois trucs dans l'année, propositions dans l'année pour se retrouver, parce que c'est important de temps en temps de se retrouver entre soi, c'est-à-dire sans jugement, avec des personnes qui nous comprennent et avec qui on peut parler. Mais la vocation, c'est quand même de rejoindre la communauté paroissiale et d'être en église avec tout le monde et de s'enrichir les uns les autres. Parce que sinon, si on ne fait que du devenir un en Christ, encore une fois, on est un peu dans l'entre-soi et c'est dommage. Pour certaines personnes, devenir en Christ est le seul lieu d'église, parce que c'est le seul lieu où ils se sentent bien. Il y en a qui ne vont jamais à la messe dans l'année, parce qu'ils ne peuvent pas être en paroisse, et par contre, ils vont à la messe à devenir un en Christ, c'est leur seul moment où ils peuvent. Et il faut respecter ça, il faut respecter, mais on essaye de, voilà, par les années, par la prière, par la lecture de la parole, par la fraternité aussi, à s'avancer, et puis à rejoindre l'Église universelle, qu'on aime. Pas tout le temps, mais souvent.
Ma question s'adresse au Père Brunin. En 2013, vous avez écrit un livre sur famille et société. Dans ce livre, on évoque comme tête de chapitre le mariage pour tous. Donc, la question du mariage homosexuel et donc de l'homosexualité existait déjà. En revanche, vous n'abordez absolument pas dans ce livre, autant que je puisse me rappeler en l'ayant parcouru, en sachant que je venais à cette conférence, vous n'abordez absolument pas la question que vous avez abordée aujourd'hui, c'est-à-dire celle posée à l'Église et à la vie de foi par l'homosexualité. Or, vous citiez tout à l'heure un passage que vous avez écrit lorsque vous étiez président de la conférence des...
Non, du conseil, famille et société. Oui.
Encore, encore. Merci. Et qui laisse entendre qu'en 2012, vous aviez déjà conscience, d'une part, du fait, et d'autre part, de n'être que modérément accepté par vos frères les évêques. Donc j'aimerais que vous me disiez un petit mot très rapide de votre cheminement sur le sujet.
Le texte que je vous ai cité, c'était en 2012, et nous avons... travailler dans le cadre du Conseil Famille et Société avec des experts, je vous ai dit, psychologues, psychosociologues, pour regarder comment était appréhendé, et aussi des gens du monde médical, comment était appréhendée cette question d'homosexualité. C'était, vous vous souvenez de cette période, une période assez chaude de débat dans l'Église, autant que dans la société. C'est vrai que dans le livre que vous évoquez, je ne suis pas allé aussi loin que dans le texte de 2012. Parce que il faut aussi être responsable d'une parole. J'étais en fonction comme président du Conseil Famille et Société. On avait pris des positions dans un texte qui s'intitulait, je ne me souviens plus, mais « Le mariage pour tous ».« Le mariage pour tous, ouvrons le débat ». Et je ne pouvais pas, dans un livre, arrêter une position parce que j'engageais plus que moi-même. Si c'est un évêque qui dit les choses. Là, c'était « ouvrons les débats », c'était pour une réflexion. Et ce n'était pas une parole close, définitive, qui tombait de façon docte. Donc oui, j'ai continué à cheminer, et je peux dire que le pape François a libéré la recherche, la réflexion, et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est sérieusement question de revoir ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est un souhait du pape François.
Monseigneur Brunin et Timothée, merci infiniment pour vos deux interventions brillantes, intéressantes, captivantes. Moi, je suis venue là ce soir parce que je n'y connaissais rien en homosexualité. Donc, je découvre plein de témoignages intéressants. Je suis baptisée, je suis chrétienne, j'ai été enseignante 40 ans. Je suis fille d'agriculteur et j'ai été très touchée par la première lecture de la lettre du jeune qui a voulu témoigner par cet écrit. Il n'a pas voulu être là, mais la lettre est tout à fait, m'a terriblement émue parce qu'il parle de l'école, quand il était à l'école à 10, 12 ans, et que déjà à l'école, on le regardait un peu bizarrement. Enseignante, nous devons surveiller les cours de récréation. Nous sommes souvent deux enseignantes à le faire. Et quand deux enseignantes se rencontrent, de quoi parle-t-elle d'histoire d'enseignante, au lieu de surveiller la récré? Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses en récréation. Et vous savez, toutes ces petites phrases assassines, « toi l'homo », soit ceci, les mauvais jeux, les jeux de rôle, les choses horribles, certaines choses se passent en cours de récré. Lorsque j'ai eu la promotion de directrice d'école dans une école catholique, je me suis demandé pourquoi, parce que malheureusement je suis divorcée, c'est pas comme homosexuel, mais divorcée, enseignement catho.
C'est pire.
Et puis,
ah oui.
Timothée, vous dites que c'est pire. Je vous rejoindrai dans le de l'enfer. Alors. Donc, voilà, eh bien, je n'ai jamais ressenti ça dans la communauté éducative, dans les gens qui m'ont embauchée, dans mes responsables. Toi, la divorcée. Jamais, jamais, jamais. Ni dans les parents d'élèves. Au contraire, ça a été les plus belles années de ma vie, ça a été mes années d'enseignement. Donc, cette lettre m'a beaucoup touchée, m'a émue, je tenais vraiment à le dire, et la dame qui l'a lue l'a très bien lue aussi. Si vous pouvez transmettre, si vous connaissez la personne qui a écrit ce texte, savoir qu'une directrice d'école a été vraiment touchée, et que dans les cours de récréation, s'il y a des enseignants ici, eh bien, circuler dans les cours de récré. Moi, quand j'étais directrice, j'obligeais les instits à circuler, mais vous savez ce que dit la directrice quelquefois. Circuler, écouter, il se passe des choses. Écoutez ce que disent les enfants. Écoutez, écoutez. Et vous savez, toutes ces phrases assassines, il faut les reprendre. Reprendre l'enfant avec soi et lui dire, tu te rends compte de ce que tu as dit? Pourquoi tu leur as dit ça, etc. Faire réfléchir l'enfant. Pas justement le taxer, mais le faire réfléchir. C'était un témoignage.
Merci.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup pour ce témoignage très touchant et éclairant. Je pense savoir que beaucoup de couples homosexuels souffrent de ne pas pouvoir porter une fécondité biologique, selon le terme. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Des adolescents peuvent hésiter un moment sur leur sexualité, balbutier à droite, à gauche, se poser des questions. Et le sujet est, en tant que parent, en tant qu'éducateur, est-ce qu'on peut promouvoir l'égalité des sexualités, alors même que l'une d'entre elles ne permet pas la fécondité biologique? J'aimerais vous entendre là-dessus.
Vous voulez quoi en premier, la réponse institutionnelle ou la réponse... Allez-y, Monseigneur.
Alors, la réponse institutionnelle. Effectivement, enfin, dans la tradition chrétienne, la tradition biblique, la sexualité est ordonnée à la procréation. Pour... Encore que dans Maurice et Titia, il y a une reconnaissance, c'est une avancée, que l'exercice de la sexualité peut être pour le plaisir, et pas simplement ordonné uniquement à la procréation. Mais il y a quelque chose du projet créateur de Dieu, comme je disais tout à l'heure. C'est ordonné à ça, et c'est comme ça qu'il faut comprendre désordonné. Intrinsèquement désordonné, sans les connotations pécamineuses ou perverses. Mais il n'y a d'humanité que dans la conjugalité, qui n'est pas qu'au niveau sexuel. C'est-à-dire que j'ai besoin des autres pour devenir moi-même. Sans la rencontre des autres, je ne peux pas me développer ou devenir moi-même seul. Donc c'est une règle de vie. Lévinas a beaucoup réfléchi là-dessus, sur la question de l'altérité, et aussi Alphonse de Ligorie sur la réciprocité des consciences. S'il n'y a pas de dialogue, de rencontre avec l'autre différent, eh bien on s'enferme dans un moi admirable, mais qui nous étouffe, qui ne permet pas l'épanouissement de notre humanité. Mais la question, c'est de dire, peut-on prétendre que deux personnes homosexuelles, il n'y a rien d'une altérité qui est vécue? Mais ça, on ne peut le savoir que si on les écoute. On ne saura pas si... on pose des jugements a priori en disant « non, c'est pas possible ». Donc, accompagner, accueillir, écouter, c'est absolument nécessaire. Mais toute personne ne peut se réaliser humainement que dans cette découverte de l'autre, de cette dimension d'altérité. On ne peut pas devenir humain pleinement par soi-même. On ne se fait pas tout seul. C'est la donnée anthropologique qui nous vient de la Bible.
Moi, je vais faire du coup notre réponse.
Ce sera plus clair, peut-être.
Non, parce que, en fait, je pense que les deux réponses vont dans le même sens. Et en écoutant votre question, j'ai tout de suite pensé à un poème de Khalil Gibran, que vous devez connaître. Je vous lis juste les premiers vers. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elles-mêmes. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Ça continue. C'est un très beau poème. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à les lire. C'est magnifique. Dans votre question, il y a une tendance à penser que on a le choix, qu'on a le choix entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, que les homos choisissent l'homosexualité parce que ça leur plaît, etc. C'est qu'en germe, ce que vous ne l'avez pas dit, et puis je ne suis pas sûr que vous le pensiez non plus, donc je ne veux surtout pas interpréter vos propos. Juste pour vous dire que il y a bien sûr, vous avez votre rôle de parent, et vous transmettez vos valeurs, est-ce que vous avez envie que vos enfants soient heureux plus tard. C'est basique, mais c'est quand même c'est absolument essentiel. Bien sûr qu'on peut rêver que ces enfants soient hétérosexuels, mariés, heureux dans leur couple, qu'il y ait des enfants, juste le bon nombre qu'ils veulent, avec un métier, etc. On peut leur faire tendre vers là. Sauf qu'ils décideront bien ce qu'ils veulent, ces enfants. Donc ce n'est pas une question de dire, d'orienter la sexualité. On sait bien qu'à l'adolescence, il y en a qui font des expériences. Mais c'est de ne pas dramatiser. Vous pouvez avoir des enfants On a eu un témoignage tout à l'heure d'un moment, quelqu'un qui a une relation homosexuelle, à l'adolescence notamment, ou voilà, parce que homosexuel, et c'est pas grave. C'est pas grave. Il ne s'agit pas de promouvoir quelque chose. Si on promeut, ça veut dire qu'on dit qu'on a le choix. Mais non, vous pouvez donner tout à fait, et c'est normal, des repères, mais accueillir l'enfant tel qu'il est, et puis peut-être que ça lui passera, son orientation sexuelle, ou peut-être pas. Et puis ce sera lui qui décidera et qui construira son propre bonheur. Mais ce n'est pas parce que vous allez dire à votre enfant l'homosexualité est moins bien, moralement, tu ne pourras pas avoir d'enfant, etc., que l'enfant ne sera pas homosexuel. Alors peut-être que vous allez lui brider ses désirs pendant un certain temps. Ça, oui, c'est possible. Peut-être que c'est juste un passage et que en effet, ce sera quelqu'un qui sera hétérosexuel ou quelqu'un qui est homosexuel et qui va se marier avec une femme et que ça se passera très bien. Il y a des exemples. C'est dangereux, mais il y a des exemples. Mais en toute cette cause, votre positionnement vis-à-vis de l'homosexualité ne changera rien à ce que va vivre cet enfant. Donc je pense que vraiment, c'est l'accompagnement vers le bonheur de l'enfant, là où il sera le plus heureux. Je ne sais pas si j'ai mieux répondu ou plus répondu ou moins bien ou si ça vous embrouille encore, mais...
Ma question était peut-être mal posée. Est-ce que par des phénomènes de mode ou de culture, on peut devenir homosexuel alors qu'on n'était pas spécialement?
On peut avoir des relations homosexuelles.
Oui.
De même qu'un homosexuel peut avoir des relations hétérosexuelles. Et pendant très longtemps. On peut, par effet de mode. Un homosexuel, par effet de mode, parce que la société l'impose, va avoir des relations hétérosexuelles pendant X années, va pouvoir se marier, avoir des enfants, etc. Donc on peut, bien sûr. Est-ce que ça le rend homosexuel? Non. On est homosexuel, on est hétérosexuel, on est bisexuel. Ça, la bisexualité, c'est aussi encore un grand impensé. Mais ça existe, des gens qui sont bisexuels, qui ont autant d'attirance pour l'un et pour l'autre. Et il y a des gens qui sont asexuels, qui n'ont aucun désir sexuel, que ce soit pour un genre ou un autre. Et il faut vraiment distinguer entre la relation... l'acte sexuel et puis et l'identité, c'est pas forcément lié.
Je suis Richard et Xavier, on est ensemble depuis 16 ans. J'ai trouvé que les témoignages ce soir étaient des témoignages souvent de tristesse. Je voulais apporter le mien parce que on s'est mariés en septembre dernier. Et cette église, qui pour certains semble stagnante ou encore vivant sur un vieux modèle, l'église du Havre nous a offert une bénédiction en église. Donc on s'est mariés civilement et... dans l'église de Bléville, on a eu la chance de recevoir la bénédiction de l'église de l'Arbre, de l'église de France. Merci, merci aussi.
Merci, bravo pour votre mariage.
Merci d'abord, je sais pas si vous m'entendez.
Oui.
Merci d'abord à l'un comme à l'autre de votre éclairage. Vraiment, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Ma question, elle est pour Monseigneur Bruno. Nous sommes tous les trois de l'équipe de la pastorale des personnes homosexuelles de Rouen et il existe une telle pastorale dans la moitié des diocèses en France. Ça veut dire aussi que dans la moitié des diocèses en France, il n'y a aucune pastorale dédiée au monde de l'homosexualité et de la foi. À propos de Fiducia Supplicans, on a pu voir aussi la diversité des opinions des évêques ou archevêques. Et je voulais savoir s'il y a des lieux de dialogue entre évêques pour justement essayer de faire évoluer les choses, d'essayer de dépasser certains blocages. Enfin, est-ce que vous avez l'occasion d'en parler entre vous? Et est-ce que vous avez l'espoir que cela puisse aussi évoluer et que certains blocages puissent peut-être disparaître? Merci beaucoup.
sur la question de l'homosexualité, depuis que je suis dans la conférence épiscopale, ce qui fait un certain nombre d'années, puisque je suis entré dans la conférence épiscopale en 2000, il y a eu des tentatives pour écrire des choses sur l'homosexualité, parce qu'on percevait bien qu'il y a un défi de la pastorale. Comment annoncer et aider des personnes qui vivent cette situation à vivre l'Évangile? Et je pense que le pape François a permis de faire avancer. On ne s'en parle pas forcément dans les grandes assemblées d'évêques, mais plus au niveau de la province. Mais, comme vous le dites, il y a des points de vue différents. Et la question maintenant, je pense, ce qui permet d'avancer, c'est que, par exemple, par rapport au texte que vous évoquez sur les fameuses bénédictions, dans le diocèse, j'ai proposé que les prêtres et la pastorale familiale, on puisse prendre le temps de dire ben, comment on reçoit ce texte, quelles sont les choses positives, qu'est-ce qui nous gêne et comment on peut avancer par rapport à des personnes qui demandent une bénédiction. Et je crois que tout ne vient pas des évêques. Et c'est la démarche synodale. Il faut qu'on avance ensemble, en peuple de Dieu, parce que c'est le sensus fidei. Le Saint-Esprit n'est pas confisqué par les évêques. Il est dans le peuple de Dieu. C'est tout le débat de la démarche synodale. Comment avancer, comment discerner ensemble des chemins pour avancer dans l'accueil et puis dans la possibilité pour des personnes qui vivent cette situation, mais c'est vrai pour tant d'autres situations, les personnes en précarité, parce que le but de l'Église, c'est d'accueillir, d'accompagner, d'intégrer dans l'Église à la suite du Christ pour un épanouissement humain et puis une foi dans le royaume. Mais ben, les évêques sont humains et les points de vue sont différents. Mais c'est vrai qu'on en parle, on partage nos pratiques dans nos diocèses quand on se retrouve entre évêques d'une même province. Mais ce qui est important, c'est que chaque évêque, dans l'Église qui a été confiée à son ministère, avec le peuple qui lui est confié, puisse avancer dans une réflexion. C'est pas... Là encore, on ne va pas sortir d'une posture un peu doctrinale où tout tombe de haut. Il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Mais comment ? Ben, là, ça a été une première initiative. C'est les prêtres et les diacres qui sont appelés à être sollicités pour ces bénédictions. Ben, comment ils voient les choses ? Comment on peut avancer ? Quels repères on peut se donner ? Et il y aura certainement un moment, il y a un conseil diocésain de pastoral, qu'on appelle conseil diocésain du peuple de Dieu, à un moment, ben, on va s'emparer de cette question et voir quelles pratiques on va mettre en place dans le diocèse.
Je fais juste un petit temps, parce que je veux rebondir sur ce qu'avait dit Mme Véron. Catherine. Je fais le vœu pieux, je l'ai déjà dit au conseil d'administration, je fais partie du conseil d'administration national de VEC. Vous m'aviez invité il y a 2-3 ans à une assemblée plénière des évêques qui, au titre de ma responsabilité au Secours catholique sur la question de la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Je fais le vœu pieux qu'un jour, l'assemblée plénière des évêques se mette à l'écoute des personnes concernées par l'homosexualité pour se mettre à l'écoute. Dans le même esprit, la même démarche, justement peut-être pour faciliter ce dialogue entre nous chrétiens et l'Église de France. Qui voudrait...
Merci infiniment à toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre et qui ont témoigné. Voilà, c'est très précieux. Moi, je voulais témoigner comme maman, tout simplement, en 2012, quand j'ai eu confirmation que l'un de mes fils homosexuel, c'était au téléphone, on était à 1000 km l'un de l'autre, et quelques temps après il est revenu pour arranger ses histoires d'études et il est reparti dans le sud. Ça, ce n'est pas anodin de vouloir partir loin quand on veut vraiment être soi-même. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, 2-3 jours après, on a échangé vraiment beaucoup. Et je lui ai dit, voilà, je suis ta maman, je me doute bien que je ne vais pas être ta première confidente, mais pourquoi tu n'en as jamais parlé, ou au moins lancé des perches. Ben, il m'a dit, mais parce que t'es catho. Ah, alors là, je peux dire la claque, je ne pense pas avoir eu enfin, des propos dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Bon, et puis, par contre, ce jour-là, il m'a dit, surtout, tu ne parles pas à mon père. Ok, bon, alors j'ai tenu ma parole. Bon, là, c'est évident, parce qu'après, évidemment, quand mon mari a réalisé ce qu'il en était, bon, il y a une période glaciaire. Peu importe, c'est passé, on s'en fiche. Mais ce que je voulais dire, c'est que peu de temps après, alors je ne vais pas cacher non plus le fait que, après avoir eu cette, alors je ne vais pas dire révélation, mais passé par cette étape où on apprend clairement que nos enfants est homosexuel, enfin voilà, il y a plein de sentiments qui vous tombent dessus. Ben ouais, on n'aura peut-être pas de petits enfants par son biais, mais on ne peut pas vraiment. Lutter contre toutes ces pensées. Bon, voilà. Mais très peu de temps après, j'ai eu la chance de lire un témoignage d'un couple d'hommes qui était dans la région et qui disait tout simplement, mais on ne choisit absolument pas. Alors, une fois qu'on a compris ça, et puis que ce n'est absolument pas une maladie, eh bien, ma foi, je vous dis, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Depuis, bon, il a vécu avec un compagnon un certain nombre d'années, puis il a rencontré quelqu'un d'autre. Bon, mais assez vite, moi, je lui ai dit, mais si un jour tu as le désir de te marier, on te suit. Et si un jour, eh ben, tu as un projet d'enfant avec ton compagnon, ben, on te suit aussi. Mais moi, je crois qu'en tant que catholique, on a vraiment une grosse responsabilité par rapport à l'accueil des jeunes qui se découvrent homosexuels petit à petit. Il y a quelques années, grâce à la pastorale des familles homosexuelles de Rouen, j'avais assisté à plusieurs conférences et il y avait l'un des membres du DUEC qui était venu témoigner. Et ce qui m'avait frappé, c'est... Et bien, si au fond de l'église, j'avais découvert un petit flyer parlant du DUEC, ça m'aurait sauvé beaucoup d'années de ma vie. Mmh. Et bon, bah, là où je suis engagée dans le diocèse de Rouen, bon, bref, plutôt du côté de Dieppe, on n'a rien à vous cacher. On parle dans l'équipe aussi de comment accueillir de toute façon ces jeunes et au moins qu'ils aient ce genre d'informations dans le fond des églises. Bon, parfois, il y a des flyers qui disparaissent très vite, mais je ne pense pas que ce soit parce que. Personne concernée, vous voyez. Bon. Et puis, après, juste deux choix de lecture, ce qui est assez éclairant, moi j'ai trouvé, c'est l'étude du sociologue dont j'ai oublié le nom, bon, mais qui s'appelle Sodoma. Et je trouve que ça a été très éclairant pour comprendre pourquoi, dans l'Église, certaines personnes bloquent ces questions-là. Et autre chose, un documentaire qui s'appelle La sociologue et l'ourson. Et c'est paru, en fait, peu de temps après le débat public, la sociologue en question étant une personne qui a été sollicitée par le gouvernement de l'époque pour aider à l'élaboration de la loi. Voilà. Et c'est très intéressant, c'est fait avec humour, mais très sérieusement, parce que le jeune qui a fait ce documentaire, c'est le fils de cette dame qui a chopé des interviews de sa maman et pour mettre en scène certains propos utilisés, bah, des ursons, des peluches, enfin, peu importe, mais c'est tout de même très sérieux. Voilà, que dire d'autre, bon, m'a dit, mais pourquoi il y a une pastorale des familles, enfin, dans la pastorale des familles, il y a une pastorale des personnes homosexuelles et de leurs familles, ça ne devrait même pas être une question, parce que, sauf erreur de ma part, dans l'évangile, à aucun moment, on voit Jésus rejeter une personne homosexuelle.
Voilà. Vous devez agir.
Petite réaction. Il est certain que quand l'enfant, je vais parler au jeu, quand j'ai fait mon coming out, ça veut dire que moi ça faisait, on va dire 12 ans que je maturais les choses, que je réfléchissais seul. Voilà. Et enfin, j'étais libre d'en parler. Et donc, je l'ai dit à mes parents. Alors, moi, je l'ai fait à toute la famille d'un coup, réunie autour d'une grande table. C'était pas génial, je le déconseille fortement. Au moment où moi je l'ai dit, j'étais prêt. Et eux commençaient leur chemin. Moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils m'ouvrent le grand leur bras et qu'ils me disent « Mais c'est super, et tu viendras avec ton copain à Noël et on fera une grande famille unie. » Alors, ça n'a pas été comme ça du tout, c'était une grosse douche froide. Mais n'empêche que j'ai compris après qu'eux devaient commencer leur propre chemin. Moi qui m'avais pris 12 ans, donc je pouvais bien leur donner quelques années. Voilà. Bon, là, c'est très bien qu'ils passent la seconde, mais il y a quand même eu des évolutions. Donc voilà, il y a quand même ce... Il faut aussi respecter ça. Et qu'on a le droit, moi j'estime vraiment que on a, les parents ont vraiment le droit de dire à leurs enfants, voilà, je suis pas prêt, quoi. Je suis pas prêt. Vas-y de mollo avec moi, épargne-moi certaines histoires, et puis on va cheminer ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que devenir un Christ demande à l'Église, c'est cheminons ensemble, quoi. Pas besoin d'être tout en haut de la montagne tout de suite, mais on va cheminer ensemble, et puis... Et on va s'aimer.
Mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi des jeunes qui quittent l'église à cause de ça. Oui. J'ai un filleul qui était prêt à faire une demande d'annulation de son baptême. Mm. Il ne faut absolument pas lui parler de l'église, même s'il suit quand même l'actualité. Mais c'est tellement douloureux. Mm.
La particularité de nos groupes de partage sont composés de personnes vivant de situations différentes. Et notamment, il y a des parents au sein du groupe. Nous, dans notre groupe en Normandie, nous avons un couple de parents. Ça permet aussi d'avancer aussi sur...
On va toucher aux dernières questions. Il y a encore...
Moi, j'ai encore une question qui me concerne tous les deux. Sur une phrase que vous avez dite pendant la conférence, c'est « Je souhaite suivre le Christ avec ce que je suis et tout ce que je suis. » Moi, je me demandais si... Est-ce que le Christ nous appelle avec ce qu'on est, ou malgré ce qu'on est et ce qu'on dit? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit suivre le Christ avec ce qu'on est en bien et en mal, parce qu'on est bien et mal, ou est-ce qu'on doit suivre le Christ en renonçant au mauvais, avec la promesse d'une résurrection, comme vous avez dit, mais d'une résurrection qui n'est pas de ce monde?
Je vous laisse répondre. Je médite ma réponse.
Je commencerai par répondre avec la phrase d'un psaume. Qui me fera voir le bonheur? Quand on est chrétien, c'est le Christ qui nous fait voir le bonheur. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il connaît nos fragilités, nos faiblesses. Il connaît aussi... nos fautes. Mais il ouvre un chemin de miséricorde. Parce qu'il veut qu'on grandisse en humanité, qu'on soit heureux, épanoui, ouvert aux autres, capable de prendre sa vie en main et de prendre en main ce monde que le Dieu créateur nous a confié. Alors, suivre le Christ, oui, il nous rejoint là où on est, comme on est. Et ça veut dire que si on accepte de se mettre en route avec lui et à le suivre, on consent aussi à modifier des choses, ce qu'on appelle la conversion. Et on a tous à se convertir. On a tous, pour avancer, à... abandonner des choses qui alourdissent notre marche. C'est l'expérience des disciples. Quand ils sont envoyés en mission, ils ne doivent pas s'encombrer avec plusieurs tuniques, avec beaucoup d'argent. Donc, le Christ est celui qui ne nous conforte pas dans une situation donnée, mais qui vient nous chercher là où on est, comme on est, et il nous propose un chemin de conversion, de croissance, vers plus de vie, plus de bonheur. Mais il faut accepter aussi de vivre cette conversion. Mais quand il nous appelle, c'est pour la vie et pour le bonheur. Et on lui fait confiance. Et on ne lui lâche pas la main. Mais il ne perd jamais cœur. Tout homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, le Christ souhaite le rencontrer. Et la responsabilité de l'Église, c'est de rendre possible la rencontre avec Jésus et la mise en route. Si on bloque les gens en disant « Vous êtes dans une situation, vous ne serez pas baptisé dans cette situation-là », si on les exclut, on barre la route. Ça a été une réflexion du Saint-Père pendant le synode sur la famille. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a fait un discours au début, il a un discours à la fin. Pendant le synode, devant certaines énormités prononcées par des pères synodaux, il est intervenu et il l'a repris dans Amoris Laetitia, regrettant ceux qui se sont installés dans la chair de Moïse pour jeter des versets d'évangile pour condamner les autres, faisant allusion à l'évangile de la femme adultère. L'évangile est un chemin de vie, de croissance, à la suite du Christ. Tout homme est appelé à découvrir et à vivre l'évangile. L'Église, c'est sa responsabilité. Elle ne peut pas faire obstacle à ça.
Timothée, on se terminera là pour ce soir.
Je ne pourrais pas faire mieux que ça. Impossible. Je n'ai pas du tout la bonne formation. Je ne pourrais pas. Moi, je suis très touché par le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Voilà. Et puis il y a une autre phrase, c'est pas une. Je vois pas la référence, mais pas une seule de tes œuvres, tu n'as voulu qu'elle soit ainsi. Voilà. En gros, c'est ça, mais ce n'est pas exactement les bonnes phrases. Vous m'excusez de ça. Juste pour vous dire que, d'expérience, à vouloir cacher une partie de ce qu'on est, parce qu'on estime que c'est péché et de ne pas la vivre sous la lumière du Seigneur, on court à la catastrophe.
Et on court encore plus au péché.
Je ne sais pas. Si Dieu, même avec ce que je suis, malgré ce que je suis, vous avez admirablement bien répondu, Monseigneur, là-dessus. Moi, je sais que à partir du moment où j'ai voulu cacher une partie de moi, alors que je suis comme ça, c'est là où j'étais en situation de péché et c'est là où j'étais en situation de souffrance. Et que je suis intimement convaincu que Dieu veut mon bonheur, vraiment que je sois heureux et pleinement heureux. Et alors je serai pleinement heureux que quand je le verrai, mais ici-bas sur terre, je sais que ma situation maritale me remplit de joie, me remplit profondément de joie. Je me souviens d'une confession d'un prêtre qui m'avait dit « Dieu serait plus heureux si vous quittiez votre mari ». Et je lui ai dit, j'ai rien dit. J'ai dit oui mon père, et puis j'ai resté mon acte de contrition, c'était en confession. Mais ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je serais malheureux si je faisais ça? Si j'essayais de cacher ce que je suis et de ne pas le mettre ça sous le regard du Seigneur, je serais profondément malheureux. Donc, pour moi, c'est y a encore une autre phrase de la Bible. Il faut éviter de sortir des phrases de la Bible, mais...
Celle-là.
Ouais, tu aimes tous tes êtres et tu ne détestes rien de ce que tu as fait. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Voilà. Et il y a une autre phrase de la Bible qui dit « Entre le bonheur et le malheur, choisis le bonheur. » Et voilà, moi, c'est comme ça que je suis heureux. Peut-être que d'autres personnes peuvent être heureux différemment et faire le choix du célibat continent, par exemple, autour de l'homosexualité, et qui peuvent être parfaitement heureuses. Et c'est merveilleux, merveilleux, parce que Dieu les aide dans leur chemin. Et je crois vraiment que quand on décide en conscience, mais vraiment en conscience, c'est une conscience qui est éclairée. C'est-à-dire, c'est pas juste « j'ai envie comme ça », c'est une conscience qui s'éclaire tout au long de la vie. Et que si on marche avec le Seigneur, qu'on essaye d'éclairer notre conscience et qu'on essaye de repérer là où on est heureux, et ben le Seigneur nous accompagne. Et il nous accompagne là où on veut aller. Et pas dans un espèce d'endroit merveilleux où on nous imposerait d'aller. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que je parle trop.
Ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci pour votre présence, vos questions. Merci à Timothée d'avoir traversé
la France.
La France.
On peut le dire.
Merci à Monseigneur Brunin. nous a accueillis dans son diocèse. Et puis, Timothée n'étant pas normand, on va lui faire découvrir ce que c'est que la Normandie. On a un petit peu de cidre. Voilà. Donc, on va terminer par un verre de cidre pour celles et ceux qui le souhaitent. Ceux qui le peuvent ou qui le veulent, il y a une petite bannette pour participer aux frais de l'organisation de la conférence. Voilà. Si vous mettez ce que vous voulez. Et bienvenue autour du verre de l'amitié. Et bon retour à vous.